Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez bien Bonjour Turbine, l'émission enregistrée au Media Lab du WIP et diffusée chez nos amis de Radio Pulse, la Station B et Radio Bazarnaum. En ce mois-ci, nous allons parler de déchets et de traitement des ordures ménagères. Comment ça fonctionne, qui le fait, où ça va. Un sujet qui nous concerne tous au quotidien et qui reste malgré tout très grandement sous-estimé. Et pour une fois, à notre échelle individuelle, on peut agir. Mais ça, on le verra dans la prochaine émission et pour l'instant, on va se focaliser sur un état des lieux. Mais on va aussi essayer de rendre le sujet un petit peu fun grâce à nos invités du jour et leurs projets un peu farfelus, vous allez pas tarder à les découvrir. Et vous avez également pu constater que Bonjour Turbine fait aussi dans le tri puisque je remplace Thomas à l'animation aujourd'hui. N'est-ce pas le signe d'un recyclage efficace ? Mais ne vous inquiétez pas, Thomas n'est pas complètement jeté mais se retrouve derrière la console à la régie pour aujourd'hui. Coucou Thomas !
Coucou, je vais même pas allumer mon micro, ça va être terrible.
Ouais, nickel. Et comme d'habitude, nous sommes très bien entourés aujourd'hui avec nos chroniqueurs. Bonjour Alain.
Bonjour Annalou, tu vas bien ?
Bah oui, bien et toi ? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de la colline aux oiseaux.
Ok, super. Et toi ? Bonjour Lafken.
Salut Annalou, bravo pour le réemploi. Je vais vous présenter l'agenda de la microfolie et je vous propose un petit jeu.
Ok, super. On a d'autres chroniqueurs qui sont un peu dispatchés, un peu dans la salle. Il y a Alixia, dis bonjour.
Bonjour.
Voilà, et Pierre, mais il est loin. Vas-y Pierre, cours vers le micro.
Bonjour.
Nickel. Et du coup, sans plus attendre, nous accueillons notre invité du jour, Monsieur Charlie. Monsieur Charlie qui est artiste, il crée des spectacles divers et variés, va nous parler aujourd'hui, entre autres de son spectacle, l'incroyable musée de la dynastie Poubelle. Alors bonjour Charlie, comment vas-tu ?
Bonjour Annalou, merci de l'invitation.
Alors qui es-tu ? Quel est ton métier en fait ? Raconte-nous un petit peu.
Alors qui je suis ? Je suis Monsieur Charlie, je suis comédien et musicien. Je crée des spectacles pour la petite enfance et l'enfance, c'est-à-dire pour la petite enfance et tout ce qui concerne les 0-3 ans, crèche, rame. Et l'enfance, c'est les écoles, les centres de loisirs, les festivals aussi pour enfants. Donc voilà, je crée des spectacles qui mêlent du conte, de la comédie et beaucoup d'instruments de musique, parce que j'adore tous les instruments différents.
Ok, d'ailleurs en parlant d'enfants, on précise qu'il y en a un sur tes genoux, quand même si vous entendez des bruits environnants.
Et une qui gigote pas mal.
Voilà, donc du coup c'est un métier assez original quand même. Et du coup, comment est-ce qu'il est né ton spectacle incroyable Musée de la dynastie Poubelle et de quoi ça parle un petit peu ?
Alors, à la base, c'est une commande du CIVEDAC, le syndicat de gestion des déchets de l'agglomération cannaise, qui a fait un appel d'offres il y a 2 ans de ça pour la création d'un spectacle à destination des écoles sur les poubelles, le tri, le réemploi, le compost, enfin tout ce qui va être autour des déchets. Donc j'ai répondu à cet appel d'offres que j'ai remporté et on a créé un spectacle. Alors je dis on parce qu'en fait on est 8 autour du projet, donc moi je suis seul en scène, mais il y a eu une assistante de la mise en scène, il y a eu 2 instrumentistes qui ont fabriqué, un luthier qui a fabriqué guitare en caisse de vin, ukulélé en boîte de bonbons, un autre flûtiste qui a fabriqué plein de petites flûtes différentes avec des tuyaux. Voilà. Le but était d'avoir tout ce qui soit sur le plateau, en tout cas, soit en récup. Donc rien n'est neuf. Tout est chiné, le bon coin, sur Emmaüs, les encombrants. J'ai même fait les poubelles de mes voisins pour essayer de récupérer quelques déchets qui me manquaient parce qu'ils... voilà. Et à la base, on voulait créer une ambiance et on s'est aperçu qu'on est parti d'un personnage qui s'appelle Eugène Poubelle, qui est né à Caen, pour la petite histoire,
ah oui,
qui était préfet de la Seine. Alors à l'époque, préfet de la Seine, ça correspondait à maire de Paris et de ses arrondissements. Et ce monsieur qui est né à Caen, qui n'a aucune plaque à son nom à Caen, a fait voter une loi en 1883. Donc c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Parce qu'à l'époque, on jetait toutes les poubelles par les fenêtres. Et en fait, il trouvait qu'il y avait beaucoup d'épidémies. C'est un mot qui est à peu près à la mode depuis 2 ans. Et par cette loi, il a demandé aux propriétaires de mettre à disposition des locataires 3 bacs à ordures. Alors, ce n'est pas une seule poubelle, mais 3 bacs. Alors, il y en a une pour les coquilles d'huîtres et la vaisselle, un autre pour le verre et les autres vraiment ordures ménagères. Donc forcément, à ce moment-là, les gens râlaient pas mal parce que en France, dès qu'il y a un changement, on râle. Il y avait des chiffonniers à l'époque, il y avait des concierges, et puis il y avait surtout des propriétaires qui n'avaient pas envie de payer des bacs à leurs locataires. Et en fait, comme les gens râlaient, pour se moquer de lui, ils ont donné le nom du préfet, poubelle, au bac de récipient, en tout cas.
Ah, d'accord, c'est ce qu'on appelle
une antonomase, pour ceux qui sont les fans de vocabulaire. Voilà. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, c'est marrant, ce monsieur, il est né à Caen, et je pourrais être de sa famille, en fait. Enfin, mon personnage et son arrière-arrière-arrière-petit-fils, il s'appelle Isaac Poubelle. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, mais il n'y a pas de musée de la poubelle dans le monde. Tout le monde a une poubelle chez lui. Chez lui ou chez elle, tout le monde a une poubelle, même plusieurs. Et, au début du spectacle, je demande toujours aux enfants qui a une poubelle. Et puis souvent, moi j'en ai 3, moi j'en ai 4, moi j'en ai 5. Ah bah ouais. Et il n'y a pas de musée. Et en fait, on s'est dit, ça pourrait être rigolo de faire un faux musée de la poubelle en faisant une visite des différentes pièces. Et une pièce pourrait parler du réemploi, une pièce pourrait parler du tri, une pièce pourrait parler du futur des déchets. Et dans le futur des déchets, on inclut dedans cette célèbre phrase qui est « le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ». Donc voilà, d'avoir une espèce de boutique à la fin du musée pour avoir ces objets, ces récipients qu'on peut réutiliser, comme les gourdes, comme les sacs à vrac, les tote bags, etc. Donc voilà, c'est parti d'une commande du Civedac et on s'est dit « tiens, ça pourrait être marrant de créer une ambiance musée pour pouvoir mettre plein de choses dedans et plein d'instruments de musique ».
Ok, c'est cool. Et toi, du coup, à titre personnel, tu l'as vu comme un défi, quelque chose d'un peu fun de traiter ce sujet-là, ou c'est directement un truc que tu dis, ouais, c'est vrai, il faut parler de ça.
Alors moi, ça fait quelques années maintenant que je fais des spectacles pour enfants, et tous mes spectacles, en fait, sont faits avec de la récup, de la seconde main, des choses que je vais fabriquer. Donc c'était un petit peu un accomplissement, on va dire, quelque chose qui avait de faire vraiment un gros spectacle, mais avec plus de moyens, et de faire travailler des copains, des copines, enfin des gens qu'on aime bien, en tout cas, qui puissent fabriquer des objets en récup qui aient un peu plus de gueule, quoi. Voilà, d'avoir un luthier qui te fabrique une guitare en caisse de vin. Voilà, moi, j'aurais pas pu la faire, mais là...
Et c'est la classe.
Ouais, c'est trop fort. Donc, moi, c'était un petit peu déjà dans ma veine. Et c'est vrai que ce spectacle-là a fait que je fais encore plus attention maintenant, en tout cas, avec les déchets. Mais c'est vraiment une continuité.
Ok, d'accord. Oh, c'est cool. Et bah, du coup, on va faire une petite pause avec Alain qui va nous parler un petit peu de la colline aux oiseaux comme il l'a prévu.
Oui, j'ai sorti une photo que j'ai prise à la colline aux oiseaux, à un endroit qui s'appelle la caverne des déchets. Alors pourquoi ça s'appelle la caverne des déchets? Parce qu'avant d'être un parc où on se promène avec beaucoup de verdure et tout ça, ça avait une autre destination, cet endroit. C'était un immense tas d'ordures. Et quand je dis un immense tas d'ordures, dans les années 70, c'était 30 mètres de haut sur 3 hectares. 3 hectares, c'est 3 fois 3 terrains, 3 stades d'Ornano, tribune comprise. Et donc, ce tas d'ordures, il était où les camions venaient déposer tous les jours les poubelles. Il y avait des bulldozers qui entassaient les trucs. Il était couvert d'oiseaux. Il y avait des mouettes, il y avait des goélands, il y avait des corbeaux, tous les qui venaient picorer. Alors eux, c'était open bar pour manger. Donc à chaque fois qu'il y avait un camion de poubelle qui rentrait, ou à chaque fois qu'il y avait un bulldozer, tu avais une nuée d'oiseaux qui s'élevait et puis qui redescendait aussitôt. Et donc, dans les années 60, en 72 pour être exact, et quand je disais 3 hectares, c'est 9 hectares, c'est encore plus. Le quartier du chemin vert a commencé à s'approcher de plus en plus de la décharge. La décharge avait été achetée dans les années 20, enfin le terrain avait été acheté, et le camp était quand même assez loin de la décharge. Sauf qu'avec l'après-guerre, le baby-boom, etc., il y a eu besoin de construction. Où est-ce qu'on va? Dans des endroits où il y a des terrains. Et donc c'était le chemin vert. Et ça s'approchait de plus en plus. Et ça devenait, c'était pestilentiel en été, il y avait des gamins qui allaient jouer là-bas, donc c'était pas terrible. Donc on a décidé de changer les choses. Donc la première chose qu'on a décidé de faire, c'est d'abord de broyer les ordures, de les trier et de les broyer. Le tri, c'était simple, c'était tout ce qui était métallique était mis d'un côté et ça partait à la SMN, ça venait ici et c'était utilisé pour faire de l'acier. Et tout ce qui n'était pas métallique, c'était broyé. Et puis, on a construit une usine d'incinération juste à côté, à Colombelles. Et donc, cette colline aux oiseaux s'est retrouvée sans être alimentée. Mais ça restait quand même un truc de 30 mètres de haut sur 9 hectares. Et à ce moment-là, il y avait un gars qui était un adjoint au maire qui était super à Caen, qui s'appelait Monsieur Dincombe, qui était un visionnaire comme plusieurs de ses collègues, et qui a dit il faudrait qu'on fasse d'abord qu'on fasse disparaître ça et qu'on fasse quelque chose qui soit plutôt de positif. Et ils ont décidé de faire un parc floral. Et donc, on a profité de la construction du stade d'Ornano où on a eu besoin d'enlever beaucoup de terre pour recouvrir le tas d'ordures. Il y a des engins qu'on terrassé, qu'on bien tassé, etc. Et on a planté des arbres. Et on a fait une immense roseraie qui existe toujours. Et on a fait les premières floralies de la paix en 1994 pour les 50e anniversaire du débarquement. Et pour que cet endroit, qui aujourd'hui est devenu un des endroits favoris des Canets pour aller se promener, on garde une trace de ce que c'était avant, ils ont gardé une vitrine où on voit tout ce qui était enfoui dessous. Et quand tu vois la photo, c'est pas ragoûtant. Et juste pour finir, moi je me rappelle quand j'étais gamin, mes parents... Ils avaient un jardin populaire qui était prêté par la ville de Petit-Quevilly, qui broyait les ordures, les enfouissait, mais fournissait à chaque jardinier de l'engrais. Et donc l'engrais, c'était tout ce qui avait été broyé. Mais des fois, tu avais des morceaux de plastique. Et je me souviens de pommes de terre que mon grand-père et mon père avaient faites, où il y avait des petits morceaux de plastique dedans, ou une carotte avec un bout de métal qui avait été dans le compost du jardin. Et donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus long sur... la colline aux oiseaux, allez écouter le compteur flâneur numéro 11 qui était consacré à la colline aux oiseaux.
Et oui, et puis tu me parlais aussi d'un documentaire que tu avais vu.
Oui, alors en zappant à la télé lundi soir, je suis tombé sur un truc qui m'a glacé, presque terrifié. J'ai regardé 10 minutes, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus. J'ai retrouvé la colline aux oiseaux, mais la colline aux oiseaux multipliée par je ne sais pas combien de centaines, en Indonésie, en Malaisie, où nos sacs jaunes, pour une partie, partaient là-bas. Sauf que maintenant, tous ces pays, la Chine, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, n'en veulent plus. Mais ils ont toujours des trucs. Et donc, on voit des rivières avec des monceaux de plastique qui arrivent. Tout de suite, quand tu interroges les entrepreneurs qui travaillent là-dessus, ils disent on est en train de négocier avec l'Afrique. Donc, allez sur France 5, sur le replay de France 5. Ça s'appelle « La face cachée du recyclage ». Et c'était le lundi 7. Février, c'est glaçant.
Et c'est pour ceux qui ont l'estomac bien accroché, du coup. Ouais.
Et oui, avec même cette idée du 8e continent qui est fait de plastique, où ça fait un peu froid dans le dos.
Ah, c'est...
Ouais. Bah, merci Alain pour ta chronique. Puis on va revenir vers Monsieur Charlie, du coup. Tu nous disais que ton spectacle c'était une commande du coup qui avait été faite avec le Civedac. Et est-ce que du coup toi ça t'a permis aussi d'apprendre des nouvelles choses? En créant ton spectacle,
ça m'a permis déjà d'aller visiter le Civedac, le site qui est à Colombelles, qui est pas très très loin d'ici en fait. Et je pense que il y avait deux commandes en fait pour le Civedac. Il y avait une commande de spectacle enfant que j'ai remporté et le spectacle adulte que la compagnie Foutu Quart d'heure a remporté. Et en fait, on a visité les deux compagnies. On est parti visiter le Civedac et on s'est dit que c'était incroyable. Incroyablement terrorisant et qu'en fait on devrait tous aller visiter un lieu comme ça, que les écoles devraient y aller un peu tous les ans. On y voit des choses, tous les déchets en fait qu'on a, qui s'agglutinent là, qu'on va brûler. Ils nous expliquent tout ce que les gens aussi mettent dans leurs poubelles et tous les tout ce qui n'a rien à faire là. Ils nous ont dit qu'une fois ils ont trouvé un jet ski en fait dans une poubelle noire par exemple, un gros bac.
Ah ouais, d'accord, ok.
Donc, alors certainement pas nos poubelles à nous en fait, ou alors des bouteilles de gaz avec des choses hyper dangereuses parce qu'ils savent pas du tout s'il y a encore du gaz à l'intérieur, sauf qu'il y a des déchets qui vont être brûlés, donc ça peut être hyper dangereux. Donc ça a été super intéressant en fait d'aller visiter un lieu comme ça que tout le monde peut visiter en fait. Mais voilà, donc je vous invite à aller visiter le site du Civedac si vous voulez prendre une douche froide. Et du jet ski, je ne l'ai pas vu. je ne l'ai pas revu, mais non, je ne sais pas.
Et du coup, c'est à l'issue de ça que tu as pu créer un contenu aussi pédagogique pour les enfants. Enfin, comment est-ce que tu as... Est-ce qu'il y a aussi un aspect ouais, justement éducatif dans ton spectacle où tu informes les enfants? Et du coup, sur quoi, entre autres? Est-ce que tu t'es informé de ton côté? Est-ce que ça a été avec le CIVEDAC?
Alors, j'ai fait des recherches. Ouais, il y a forcément un côté... il faut que ce soit éducatif, il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit musical aussi. Il ne fallait pas que ce soit la corvée pour eux et puis leur sortir plein de chiffres.
Ouais. Ou juste divertissant et...
Alors, qu'on apprenne et que ce soit divertissant. Il y a, y a une partie notamment où il fallait parler du nombre de kilos d'ordures qu'on va jeter en fait dans l'année, et pour ça par exemple on a utilisé des équivalences en poids des animaux. Par exemple, on jette dans le Calvados on jette l'équivalent de 630 baleines par an de déchets. Alors, l'équivalence en poids, alors c'est 630 baleines. Alors si je vous dis le chiffre en milliers de tonnes, ça nous parle pas, et puis les enfants encore moins. Et 630 baleines, alors ça fait 15 000 éléphants. 15 000 éléphants, ça fait à peu près un cheval de déchets par an par personne. Un cheval par an, ça fait un agneau par mois, et un agneau par mois, ça fait l'équivalent d'un chaton par jour de déchets. Si on compte déchets ménagers, poubelles jaunes, poubelles vertes, déchets verts et tout ce qui va aux encombrants, en gros, ça fait 700 kilos par an, par personne. Donc c'est assez impressionnant. Ouais. Donc voilà, on est parti aussi sur des choses comme ça qui puissent parler un peu plus aux enfants et que ce soit à peu près amusant, si on veut.
Ok, bah oui, c'est vrai que c'est bien transcrit du coup. Et du coup, on va faire une petite pause musicale avec Pierre, qui a en plus un nouveau jingle à nous proposer.
C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre. C'est la rubrique de Pierre.
Trop bien. Ouais.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler en première partie d'un musicien youtubeur qui nous vient de Nice. Son nom, c'est S'Théo, Sto. On le connaît plus via son pseudo sur YouTube. Alors attention de ne pas l'écorcher, hein, c'est Fils de Flûte. Et du coup, Fils de Flûte, il part à la recherche des plus beaux déchets qui sont jetés par nous autres. Il nous montre son processus de création, comment il transforme les déchets en instruments de musique. Donc vraiment un concept surprenant qui bien évidemment sert la cause écologique tout en démocratisant la musique. Donc Charlie, je t'ai trouvé un nouveau copain de passion. Merci. Et vraiment face à ces tas d'ordures, il imagine déjà en fait un orchestre philharmonique. Et avec l'un des déchets les plus jetés au monde, eh bien il arrive en fait à faire un morceau bien sympa. Est-ce que vous avez ce déchet le plus jeté au monde ?
La paille.
La paille, exactement, une paille en plastique. Donc je vais vous passer un extrait de sa vidéo qui s'appelle « Le plus gros pollueur est une flûte, la paille à son ». Alors si vous souhaitez faire de même avec des pailles, eh bien dans la vidéo, il vous fait un petit tuto rapide pour le faire vous-même. Allez, on se passe un extrait.
Tu sais pas quoi faire ? T'as les poubelles pleines ? Tu t'ennuies ? Viens voir.
Tu t'ennuies ?
On va fabriquer du son avec une paille. La paille à son.
Tu t'ennuies ?
L'air doit rentrer dans le petit trou là et va longer l'intérieur du bouchon pour essayer de rentrer dans la paille en faisant vibrer le plastique, ce qui va créer du son.
Alors c'est pas trop bien les pailles en plastique, mais version instrument.
C'est mortel.
Donc il a vraiment une phrase qu'il redit dans un documentaire que je vous invite à aller sur sa chaîne, donc Fils de Flûte, et regarder le documentaire qui dure une dizaine de minutes. Et dans son documentaire, il y a une phrase qui m'est resté en tête, c'est « moins je jette et plus je crée ». Voilà son credo. Et en fait, le concept, tout est parti d'une soirée avec un de ses potes. Les deux s'amusaient en fait à créer un lance-flèche avec un tube de PVC, du scotch et un ballon. Et à un moment, paf, le ballon il craque. Et du coup, bah, fils de flûte, Sto, souffle dans le tube et boum, une note de musique. Et là, c'est parti, ça s'est enchaîné. Une flûte avec une chaise, une antenne, un râteau, une bouteille d'eau, une barrière de travaux, un bâton de ski. Et on l'a vu dans l'émission La France, un incroyable talent, où il a fait une performance avec un vélo, où il a tout fait avec son vélo, un instrument de musique. C'était vraiment super bien. Et du coup, bah, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Et on a tous un instrument de musique ménager qui est assez bruyant de base, avec sa mélodie explosive en décibels une fois lancée. Eh bien, notre cher artiste l'a métamorphosé en un doux instrument au timbre suave. C'est l'aspirateur. Allez, on sait qu'on a un extrait d'une autre vidéo qui s'appelle Mon aspirateur a des pouvoirs magiques, Aspi Potter.
À ton tour de jouer du pipeau, t'aurais pas un aspirateur ? Alors on va fabriquer un Aspi Potter.
Voilà, en bref, un concept insolite et efficace, c'est tout ce qu'on aime. Et j'espère que le travail de cet artiste inspirera les plus créatifs d'entre vous à récupérer les déchets pour vous amuser à en faire des instruments. Est-ce que vous, parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé de faire un instrument, souffler dans un tube, un rouleau d'essuie ou une bouteille ? Bah voilà, on a cet bel exemple magnifique. Alors,
si, un petit bout de, quand j'avais 7 ans, un petit bout de bois, là on avait fait des trous et tout là. C'était fou, c'était dingue.
Moi j'utilise mes rouleaux de PQ comme enceinte.
Insane.
Ah mais pas mal,
c'est vrai.
Moi je prenais un peigne avec du papier toilette pour faire un casou.
Et bah voilà, magnifique, avec les objets du quotidien, les objets qu'on jette. On crée un groupe, les gars.
Ok, bah merci Pierre pour ta chronique. Et du coup, justement, à ce sujet, ils sont comment nos petits chroniqueurs sur le tri des déchets? Est-ce qu'on est bon élève? Est-ce qu'on n'est pas bon élève? Dites-nous tout.
On essaye de faire des choses, mais ce n'est pas évident, parce que les magasins ne sont pas forcément tous prêts à le faire. C'est vrai que utiliser des sacs ou des sacs en tissu, des sacs en papier qu'on garde, bon, ça prend un peu de place, mais ce n'est pas gênant. Utiliser des bocaux en verre, ça prend de la place, mais ça évite de jeter des choses dans la boîte, etc. Il va y avoir un composteur, enfin bon... On apprend. Plus on est ancien, plus c'est difficile, mais en faisant des efforts, on y arrive. Et puis, bon, heureusement, on a des enfants qui ont été éduqués par le Civédac, justement, parce que les instituts ont commencé à emmener les enfants visiter et il y a eu des sensibilisations. Et je peux vous dire que quand les mômes, ils étaient petits, qu'on ne mettait pas dans la bonne poubelle, la bonne couleur, un truc à la maison, on avait le droit de se faire engueuler, mais avoir quelque chose de bien. Et donc, voilà, tout passe et passera par les enfants et comme les enfants deviennent des adultes, ben voilà.
Nickel. Et toi, Lafken ?
Je veux pas dire que je suis un élève modèle. Non, quand même, j'essaie de faire le tri au maximum. Alors, je suis très loin du zéro déchet. Et travaillant effectivement avec beaucoup d'électronique, on a souvent des cartons. Mais en tout cas, c'est comment réutiliser ces cartons qui peuvent nous servir de boîte de stockage pour complètement autre chose. Et c'est vraiment essayer d'avoir une autre méthode. Pas bon élève, mais en tout cas en nette progression.
Ok, bah c'est bien. Et Monsieur Charlie, il est bon élève du coup à la maison ?
Monsieur Charlie, il fait des efforts. Je crois que ce qui est important, c'est ce que tu dis. En fait, c'est toujours sur la voie du sans déchet. Alors, moi, j'ai un compost, j'ai des poules. J'essaye de faire mes courses avec des tupperwares. Mais ce que tu disais, Alain, c'est très juste aussi. En fait, il y a la faute qu'on va porter sur le consommateur, en fait. Mais quand on va dans un magasin, qu'il soit Biocoop ou d'ailleurs, ou supermarché, ce qu'on nous propose, c'est aussi beaucoup d'emballage. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident si on veut les personnes qui boivent du lait, qui mangent des yaourts, en tout cas de tout faire soi-même, on n'a pas toujours le temps, mais voilà, cette question des déchets qui se multiplient, c'est aussi une question pour moi qui devrait être posée à tous les industriels qui nous vendent des choses et après nous dire faites gaffe quand même, faites gaffe aux déchets, alors que bon voilà, on n'a pas tellement de choix. Alors on fait l'effort, on fait attention à tout ça, mais c'est un peu trop facile en fait à chaque fois de mettre la faute sur le consommateur.
Bah oui, c'est sûr. Et je crois qu'Alixia, du coup, la plus jeune de la bande, elle, est-ce qu'elle trie ses déchets ?
Oui. Ben, je vis chez mes parents, donc, sinon je me fais taper sur les doigts, donc, voilà. Mais, en plus, je sais que le CIVDAC, c'est pas loin de chez moi. Et justement, à l'école, j'ai eu de la sensibilisation au niveau du tri des déchets. Et donc, je trie et je suis sensibilisée à ça. Et je pense que la jeunesse trie, je pense. Et toi, Analou, tu tries ou quoi ?
Non, moi, je trie pas, je m'en fous. Je mets tout dans la même poubelle, même le verre. Non, je déconne. Et du coup, vu que tu nous as amené ta petite guitare, est-ce que tu nous jouerais pas un petit extrait de ton spectacle ?
Bah écoute, je vais te chanter une petite chanson qu'on chante à la fin du spectacle. Dans l'histoire, en fait, mon père, qui s'appelle Philippe Poubelle, dans le spectacle, était un créateur d'instruments de musique, d'où la place de tous les instruments. Et c'est marrant qu'il ait utilisé les pailles tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup d'instruments avec des embouchures en paille, bombarde, saxozoir aussi, qui est un mélange entre un saxo et un arrosoir. Voilà. Et mon père avait failli faire une tournée internationale dans toutes les déchetteries, les plus belles déchetteries du monde, sauf qu'il a été arrêté malgré lui. Donc pour ça, je ne vous dirai pas comment exactement, vous irez voir le spectacle.
Avec
coup,
plaisir.
Il avait fait un tube, parce qu'on ne fait pas une tournée internationale sans rien, donc je vais vous chanter son tube.
Ok, merci.
Moi qui ai eu la chance de voir le spectacle, de voir sa préparation, je peux vous dire que c'est d'une très grande qualité, c'est drôle et c'est vachement éducatif. On apprend plein de choses et on se marre bien, donc à voir.
Alors j'ai pas ramené la guitare en caisse de vin, je suis désolé.
Bah, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, ça nous force à aller voir le spectacle.
Exactement.
Ouhou, pas de 4 heures, pour les pollueurs, pas de 4 heures, pour les pollueurs. La planète Terre est vieille comme le monde, quand je regarde mieux, je vois qu'elle est ronde. Mais dans tous les coins, il y a des déchets, des sacs et des papiers, oh, moi j'en ai assez. Ouhou, pas de 4 heures, pour les pollueurs, pas de 4 heures, le plastique, c'est pas fantastique. Le métal, c'est pas l'idéal. Le carton me rend ronchon. Et même le papier, faut le recycler. Ouh, 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 pas de 4 heures. Ouh, ouh, pour les pollueurs. Ouh, ouh, pas de 4 heures. Ouh, ouh, pour les pollueurs. Le compost, c'est mon nouveau pote. Le gaspillage alimentaire, j'en fais mon affaire. Je répare plutôt que de jeter. C'est gagné. Pas de 4 heures, pour les pollueurs. Pas de 4 heures, pour les pollueurs. Vivre sans déchets, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'essayer. Et sur ce rythme de reggae, on ne peut que y arriver. Ouh, ouh, pas de 4 heures. Ouh, ouh, pour les pollueurs. Ouh, ouh, pas de 4 heures. Ouh, ouh, pour les pollueurs. Ouh, ouh, pas de 4 heures. Ouh, ouh, pour les pollueurs. Ouh, ouh, pas de 4 heures. Ouh,
merci.
On avait un public très dansant.
Ça, c'est sûr. Le studio tremble. Merci beaucoup, Charlie. Et du coup, est-ce que ça t'a redonné un petit peu d'espoir de faire des spectacles comme ça devant les enfants ?
Oui, parce que comme on disait, en fait, les enfants sont l'avenir. Après, ils sont très sensibilisés à ça. Après, c'est dans les familles où ça se passe. Et c'est vrai que c'est important que les enfants puissent... dire ce qui est bien ou pas. Après, c'est les habitudes familiales qu'il faut prendre, parce que les enfants suivent aussi les habitudes des parents une fois adultes. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a 50, 60, 70 ans qu'il faut dire « bon, moi, c'est fini, de toute façon, c'est foutu, on s'arrête là ». Et voilà, faut aussi faire tous ces efforts-là pour les petits-enfants, enfants, petits-enfants et toutes les générations à venir. Donc moi, j'ai bon espoir, je suis plutôt optimiste de nature, mais en tout cas j'ai bon espoir, parce que je vois aussi beaucoup de générations cette nouvelle génération qui arrive. Alors voilà, est-ce que c'est parce qu'on est tous dans des clans, dans des réseaux où on essaye de faire très attention, végète, vegan, sans déchets et tout ça, donc peut-être aussi, mais en tout cas, on va croiser les doigts parce qu'il y a du boulot à faire en tout cas.
Ok, bah super, bah c'est un chouette message. Merci beaucoup en tout cas d'être venu.
Merci à vous.
Et puis bah, on listera toutes les infos pour te retrouver sur internet dans la description de cette émission. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Et du coup, on va passer tout de suite à notre chroniqueur habituel, le journaliste indépendant Raphaël Pasquier, avec ses clés de lecture.
Aujourd'hui, format flash pour parcourir les news de l'édition de février de la newsletter Petit Format.
Le terme féminicide définit le meurtre de femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes.
20 ans de prison pour l'ex-compagnon et meurtrier d'Audrey Coignard, tué en 2019 à l'âge de 27 ans. L'un des 152 féminicides qui ont lieu cette année-là. Les amis de cette jeune femme originaire de l'Orne ont signé une tribune dans grand format à l'occasion du procès. Les mots sont forts, les mots sont justes. Prévenir les féminicides passe par la déconstruction des mécanismes de domination du patriarcat et par une prise en charge des auteurs de violences.
Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer là.
On prend là le temps.
C'est la révélation du film Ouistreham actuellement en salle. Hélène Lambert est en tête d'affiche du film d'Emmanuel Carrère. Et pourtant, elle n'est pas actrice professionnelle. Agente d'entretien, elle joue son propre rôle dans cette adaptation du livre de la journaliste Florence Aubenas. Un petit format tire son portrait, le casting sauvage à Hérouville, la promo du film pour parler des conditions de travail relatives à son métier et l'avenir dans le cinéma, pas certain.
T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais, voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais... C'est un bon chasseur, hein.
Il y a aussi le chasseur bourgeois et le chasseur rural. L'anthropologue Charles Stepanov détaille ses deux conceptions dans son nouveau livre « L'animal et la mort ». Il a pour cela suivi des chasseurs pendant plusieurs années entre la Beauce, les Yvelines et le Perche. Interviewé par Vincent Guerrier, il explique que la chasse business s'est imposée ces dernières décennies au détriment d'une chasse rurale, populaire et de subsistance.
Ouais, je te le dis, tous les emballages vont dans le bac de tri.
Et ces emballages, ils seront bientôt triés près de chez nous, à Caen-la-Mer, comme dans 13 autres collectivités normandes, pour réduire le coût économique et environnemental du tri. Ce sera à partir de 2024, avec le futur méga-centre Normandtri implanté à Colombelles. La gestion du site a été confiée à la multinationale des poubelles Urbaser, qui emploie 50 000 collaborateurs à travers le monde.
Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés.
Problèmes respiratoires, fatigue, troubles menstruels, thrombose, autant de pathologies observées sur des patients récemment vaccinés. Sur le terrain, les soignants s'interrogent sur la pertinence de l'obligation vaccinale. Pour grand format, Simon Gouin a enquêté et remonte la piste de ses effets indésirables potentiels. Également à lire le dernier volet de la série sur le pari de la vie collective, Malika Barbeau est partie à la rencontre des 13 familles qui habitent l'éco-quartier des éco-bâtisseurs à Louvigny. On termine avec un rendez-vous à noter dans vos agendas. Grand Format propose une rencontre avec l'association Quartier Jeunes autour de la prévention de la radicalisation pour prolonger l'article du mois d'octobre sur le sujet. Soirée le jeudi 24 février à 18h à la maison de la Bécane à Hérouville. Pour en savoir plus sur toutes ces infos, abonnez-vous à la newsletter Petit Format sur grand-format.net.
Et on remercie Raphaël qui nous a confié ses clés de lecture. Et on va maintenant passer encore à un nouvel happening de cette émission, parce qu'il n'y a que ça des surprises, avec un deuxième invité que notre chère jeune Alixia va nous présenter, puisque c'est elle qui l'interview aujourd'hui. Bonjour Alixia, ça va ?
Oui, ça va et toi ?
Oh, nickel.
Super.
Alors de qui tu nous parles aujourd'hui ? Qui nous a rejoint autour de cette table ?
Nous a rejoint autour de cette table un homme avec un t-shirt vert et ça a l'air d'être un grand sportif. Je te laisse te présenter.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Pierre et mon surnom, c'est Les Boueurs Verts.
Et ça rime, Pierre Les Boueurs Verts.
C'est exactement. Vrai.
Tout est bien trouvé. Donc, c'est quoi Les Boueurs Verts ?
Très bonne question. Les Boueurs Verts, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé totalement par hasard il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. C'est une initiative citoyenne environnementale, en fait, que j'ai créée. J'ai deux passions, moi, dans la vie, c'est l'environnement et le sport. Et en achetant un kayak il y a maintenant un an et demi, donc je disais, j'ai fait des sorties sur l'Orne en partant de Caen. Et j'ai vu sur l'orne des déchets qui flottaient, des déchets qui étaient dans les berges. Et donc, je me suis dit que les déchets étaient là, j'étais là, autant les ramasser, autant lier l'utile à l'agréable. Et donc, j'ai mêlé ça maintenant à toutes mes sorties sportives. Donc, j'ai essayé pendant les sorties kayak, les sorties randonnées, les sorties trail, en vélo aussi, de ramasser les déchets. Donc, j'ai fait ça tout à fait par hasard. Ça a un peu pris. J'ai été contacté par France 3. On a eu un reportage. Après, il y a eu d'autres médias, France 2, des radios et des presse écrites locales. Donc, ça a un peu pris. Et là, depuis maintenant le mois de novembre, j'ai créé une association. Donc, il s'appelle quand même Les Boueurs Verts. Et donc, j'essaie de développer tout ça, voilà, de ramasser les déchets dans la nature, mais surtout de sensibiliser et d'éduquer au sujet et enjeux environnementaux. Parce que s'il n'y a pas de production de déchets, s'il n'y a pas d'incivilité, on ne les retrouve pas dans la nature.
Oui, justement, sur la question de la sensibilisation, j'ai vu que tu étais beaucoup présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, plus de 3000 abonnés, plus de 700 personnes ont aimé ta page sur Facebook. C'est important pour toi, cette présence sur les réseaux sociaux, dans les médias ?
Alors, c'est un peu une obligation, en fait, parce que moi, je ne suis pas du tout de la génération réseaux sociaux, mais j'en ai discuté voilà, avec des amis et puis plein de gens que j'ai rencontrés, plein d'autres structures. Et les réseaux sociaux, il y a plein de mauvais côtés. Faut pas le négliger, mais il y a aussi des bons côtés, autant en profiter. Et la portée des réseaux sociaux est intéressante quand on s'en sert correctement. Donc voilà, j'essaie de m'en servir sur les réseaux et puis dans toute la communication que je fais et toute la sensibilisation que j'essaie de faire. J'essaie, comme le disait hein, Monsieur Charlie également, c'est de rendre l'écologie un peu plus fun, un peu plus sexy. L'écologie, c'est pas sexy. Tout le monde s'en fiche. Les écolos, ils sont bien sympas et voilà, on les laisse dans leur coin et puis ils vont pas faire de bruit. Donc c'est un peu tout le but, c'est de rendre ça plus sexy et plus fun. Donc en trouvant des canaux plus originaux. Là, je suis en train d'écrire des livres pour enfants justement pour pouvoir après aller dans les écoles faire des interventions. Donc c'est voilà, c'est toutes ces idées originales que j'essaie de développer.
Trop trop cool. Et justement, est-ce que tu as eu des retours de personnes qui t'ont contacté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as inspiré des gens grâce à ce que tu as fait ?
Alors, inspirer des gens, je ne sais pas. Des retours positifs, ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui font ce que je fais depuis très longtemps. Et il y en a plein et je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Donc oui, il y a une grosse communauté de gens qui ramassent les déchets. Il y a plein de retours. On essaie d'organiser des événements ouverts au public. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, bah voilà, les médias commencent à nous contacter aussi. Hein. Vous m'avez contacté du coup via les réseaux, donc c'est top, c'est que ça prend un petit peu et on va continuer comme ça.
Trop bien. Et je me demandais, c'est du coup, tu trouves des déchets, donc avec ton kayak, tu vas dans l'Orne, tu repêches les déchets, mais qu'est-ce que tu fais après avec ces déchets ?
Alors, au tout début, vu que c'était pas prévu, c'était pas organisé, je trouvais des poubelles à côté de mes endroits où je me promenais et je laissais ça dans les poubelles, du coup. Je me suis dit, quand même, c'est un peu dommage, autant aller au bout de la démarche. J'ai commencé à les ramener chez moi, faire le tri entre bah, le vert, les poubelles jaunes et les poubelles noires. Et l'étape d'après, là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai de la place maintenant pour stocker. Je vais essayer de stocker tout ça et de revaloriser les déchets. Il y a plein de structures, il y a plein d'initiatives qui valorisent les déchets. Il y a des gens qui valorisent les mégots pour en faire du mobilier urbain ou des isolants. Il y a des gens qui valorisent les masques pour en faire des vêtements. Il y a des gens qui valorisent le plastique non recyclable pour faire du mobilier également. Donc voilà, le but, c'est de donner une seconde vie, parce que voilà, c'est bien, hein, ils sont pas dans la nature, ils sont dans la poubelle, mais autant en faire quelque chose, parce que les poubelles, on sait pas où est-ce qu'elles vont, le tri, on sait pas où est-ce que ça va non plus. Donc on maîtrise ce qu'on produit, et j'essaie de maîtriser l'après aussi au niveau des déchets.
Ok, et justement, tu trouves quoi comme déchets ? Est-ce que t'as trouvé aussi des jet skis abandonnés ?
Non, j'ai pas encore eu la chance de trouver un jet ski. Après, avec le kayak, ça serait compliqué à remorquer, je pense.
Ouais.
Non, malheureusement, il n'y a pas de déchets originaux. Hein, majoritairement, c'est les bons vieux mégots, c'est les bouteilles en plastique, les canettes.
Des claquettes.
Des claquettes.
Même, non.
Exactement. Oui, on trouve un peu de chaussures.
J'ai
quand même
vu la story Instagram. Voilà.
Bah ouais, mais c'est très bien comme ça. Moi, ça peut me faire des petites chaussures après pour faire mes sorties.
Nickel, pas les mêmes. Et deux pieds droits, mais ça va.
Ouais, il faut que je trouve le pied gauche maintenant.
C'est ça.
Mais non, malheureusement, voilà, c'est que des déchets qu'on retrouve au quotidien. Alors si, après on retrouve des trucs un peu originaux, ça dépend des périodes aussi. Hein. Là on est en hiver, donc les gens sortent moins. Quand on va retourner en été, là on va retrouver beaucoup, bah, j'espère retrouver mes pieds gauches du coup en été, parce que là les gens vont perdre leur bonnet, bah non pas en été du coup, et leur chapeau, leur tongs et tout ce qui est pour le pique-nique du coup.
Et tu fais ça tout seul, trouver des déchets, les trier, tout seul, ou t'essaies de mobiliser d'autres personnes ?
Alors, tout seul, non, parce que je te disais, il y a plein de gens qui font ça aussi en dehors. Moi, quand je fais mes sorties, ouais, je suis souvent tout seul parce que c'est toujours du dernier moment. Je ne vais pas prévoir une semaine à l'avance quand est-ce que je vais faire ma sortie, donc je suis souvent tout seul. Après, j'organise souvent des événements. Là, le prochain, c'est le 26 février. Samedi 26 février prochain, je fais un événement avec Sauvage sur un plateau et le C-Team également. Donc, on va faire une marche ensemble. Donc, on va pouvoir voilà, ramasser des déchets à plusieurs et être plus efficace.
Ok, et du coup, tout le monde peut participer ou c'est juste avec eux si les gens peuvent se joindre à,
ah,
à
c'est
toi,
un événement public okay. qui est organisé par, le, par Sauvage sur un plateau à la base. Il y aura un brunch sénégalais, il y aura des leçons de piano, il y aura des ventes de légumineuses. Donc voilà, c'est avec le site team Sauvage sur un plateau, la corderie et le tire-lieu rive droite. Et moi, je me greffe à cet événement-là pour organiser une marche.
Ok, ça marche. Et du coup, j'ai regardé sur Instagram, c'est qui Yuka?
La petite Yuyu. La petite Yuyu, alors c'est le chat de ma copine.
D'accord.
C'est le chat de ma copine. Et je me suis dit, bah, on parlait de l'écologie, c'est pas fun, c'est pas sexy. Les vidéos qui sont les plus vues sur les réseaux, sur YouTube, c'est des vidéos de chats. Donc je me suis dit, bah, on va tester. Je vais engager Yuyu pour être ma brigadier chef. Et je vais m'en servir. Maintenant, c'est un peu ma mascotte. Et je vais m'en servir pour bah, essayer de rendre le truc un peu plus fun. Donc voilà, on prépare des petites vidéos avec Yuyu. Elle va vous faire des choses un peu sympas.
Ouais, trop mignon le petit chat. Ok, bah super. Bon bah, moi j'ai...
Toi tu as fini tes petites questions.
Ouais, j'ai fait mes petites questions. Mais en tout cas, c'est super intéressant.
Merci
beaucoup. Et justement, en fait, souvent, bah, en fait, c'est surtout quand ça touche aux endroits qu'on voit tous les jours. Enfin, quand on se promène près de l'Orne, tout ça, on voit plein de déchets et tout. Et moi, en fait, j'ai du mal à passer le pas, à me dire « Ok, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je vais y aller. » c'est quoi qui t'a vraiment motivé à le faire? C'était juste « Ok, je fais du sport, je vais ramasser. » Ça t'est vraiment venu naturellement, ce truc-là?
Par hasard, ouais, par hasard. Voilà, je suis déjà sensibilisé, hein, j'ai une fibre écologique. Donc, du coup, je me suis mis à ramasser les déchets. Après, c'est pas toujours facile.
Bah oui, c'est les déchets, c'est pas facile, en vrai, mine de rien, de se dire bah, « Vas-y, je vais ramasser ce déchet. » Et mettre dans la poubelle, il peut y avoir quand même une petite... à moins d'avoir prévu, genre, je sais pas, des gants ou des trucs.
Ouais, c'est ça, gants et pinces. Mais ouais. c'est surtout qu'on se sent un peu, au début, un peu inutile. Un peu inutile quand tu vois tout ce que les industriels font, les compagnies aériennes, ce genre de choses. Tu te dis, toi, tu prends ta petite pince, ton petit sac, tu vas ramasser 5 kilos de déchets. Bon, bah, tu changes pas grand-chose. Mm-hmm. C'est mieux que rien, faut le faire. Il y a une super assoce qui s'appelle Un déchet par jour. Et je m'en sers beaucoup comme exemple. Si on est maintenant quasiment 7 milliards, je pense, sur Terre, si tout le monde ramassait un déchet par jour, ça serait 7 milliards de déchets en moins tous les jours. Donc il n'y a pas de petits gestes. C'est compliqué parce qu'on peut se dire qu'on se sent inutile et que ça n'a rien à voir par rapport aux gros pollueurs. Mais c'est important de le faire parce que je pense que tout partira d'en bas, tout partira des jeunes. Et c'est nous qui avons le pouvoir de faire, donc autant le faire.
C'est vraiment trop bien. En plus, mêler un truc que t'aimes, donc faire du sport, mêler une passion et environnement, c'est... Enfin, c'est tout bénef, quoi.
Exactement, ouais. Ouais, tu te dépenses et puis en plus, tu te sens utile, donc c'est cool.
Ouais, c'est super.
C'est chouette, ça donne envie de recroire aussi au fait qu'il faut bien trier ses déchets. C'est vrai que c'est souvent le sujet qu'on nous radote depuis longtemps et les gens ont même tendance à le négliger, du coup, parce que ça fait quand même longtemps qu'on nous dit le tri des déchets, mais c'est vrai que ça nous rappelle aussi que... Bah que c'est important quand même, mine de rien, que c'est pas pour rien qu'on nous le rappelle depuis autant de temps.
Et puis voilà. Monsieur Charlie le disait aussi, hein, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Donc
exactement, voilà. Et ça ce sera le sujet de notre deuxième émission, donc on ne spoil pas.
Pas de spoil.
Okay.
Tout à l'heure on a parlé du jet ski, moi j'ai trouvé un jour en me baladant dans la baie de Salnel, il y avait les roues, le plancher d'une caravane qui était dans la baie de Salnel.
Ah.
Il y avait la plage, quoi, tout. Donc je ne sais pas ce que sont devenus les gens qui étaient dedans. J'espère qu'ils l'ont quitté avant que ça soit marqué. La baie de Salnel, c'est fou le nombre de cochonneries que ça peut ramener.
Ouais, et puis là, c'est qu'en surface, moi, ce que je ramasse. Donc si on va à la pêche à l'aimant, il y a moyen de trouver des choses vraiment intéressantes.
Des vélos, intéressantes. Des trucs, des dingueries. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu et puis d'avoir répondu à nos petites questions.
Merci. Allez le suivre sur Instagram et sur Facebook.
Évidemment, on listera tous les liens pour aller te retrouver sur les réseaux. Voilà.
Merci à vous.
Et on va passer du coup à nouveau à Pierre, parce que Pierre, il a vraiment des musiques à nous présenter. Alors Pierre, du coup, on t'écoute avec la suite de ta chronique musicale.
Et oui, j'ai découvert une artiste. Est-ce que vous connaissez la chanteuse Suzanne?
Oui. Non.
Oui, il y a Alain qui connaît.
Je crois pas, non.
Donc une chanteuse qui vient d'Avignon, qui est préoccupée par une pollution globale et flippante de la planète. Donc du coup, elle a tourné le clip « Il est où le SAV ?» dans une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, au Sénégal. Donc l'idée de cette chanson que je vais vous diffuser juste après, « Il est où le SAV ?» jaillit chez l'artiste en fait lors d'un voyage en autocar en tournée en Chine. Elle confia à la presse lors de sa présentation du titre « La couleur du ciel à Shanghai, les Chinois ne la voient pas tous les jours. Je me suis rendu compte que je ne voyais pas le visage des gens avec cet épais nuage noir constant. C'est un futur apocalyptique, c'est très triste d'en arriver à ça, et en Chine, ils en sont déjà là. » Donc du coup, Suzanne a dès lors envie de montrer la réalité des déchets et pas dans un clip sur fond vert avec des effets spéciaux. Du coup, sa production se renseigne sur les décharges à ciel ouvert qui pourraient les accueillir pour le clip. Donc en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie. Mais le seul accord vient du Sénégal, près de Dakar. Une des plus grandes décharges du monde, 114 hectares de détritus qui sont recensés par l'ONG Waste Atlas Partnership. Donc du coup, on s'écoute le titre et je vous invite chez vous à regarder le clip qui est très très impressionnant.
Écoutez bien, bonjour Turbine, on vient de se faire une pause musicale proposée par Pierre. Et maintenant, on va passer à l'agenda de la microfolie avec Lafken. Lafken, ça va toujours ?
Ça va toujours, et salut à l'équipe de Bonjour Turbine. Je vois qu'on a enfin décidé de trier parmi les animateurs et de mettre du neuf. Je fais un gros clin d'œil à Thomas.
Enfoiré.
Avec plaisir. Alors, ça faisait un moment, effectivement, que j'étais pas venu sur vos ondes. Il y a toute une histoire à ça. Une histoire que j'ai racontée à mille et une personnes. Et que je vais de ce pas recycler pour vous.
Yeah.
toute une thématique. Donc c'est parti pour la route de la folie créative. En janvier, il s'est passé des choses. J'ai traversé l'Afrique pour y découvrir des trésors et ramener des masques africains. Mais c'est la suite de mon voyage qui va vous plaire. J'ai prévu le 12 février à 15h de jouer les artistes en carton en réalisant des carpes koi. Cet animal, il a tout compris sur le principe qu'au lieu d'abandonner, il faut toujours persévérer. S'il remonte la cascade, petit poisson deviendra dragon. Ouais, les Asiatiques, ils aiment bien les proverbes un peu mystiques. Je pensais aussi à m'immerger sous une cascade à la manière des héros de Kung Fu qui pensent qu'avoir la crève fera d'eux des maîtres des arts martiaux. La seule chose que tu auras, c'est une boîte de Kleenex, mon pote. Ce genre de cliché, en fait, ça nous vient de la pop culture. Et je pense qu'on peut en parler, et on va en parler. C'est la séance jeu. Indice pour vous à la maison. Je suis à la radio, c'est débile. Donc, première question. Attention. Je suis un personnage apparu pour la première fois en 1984, mon véritable nom n'est donné que bien des années plus tard, lorsque je rencontre un prince, méchant au début, qui deviendra un allié plus tard. Je suis la représentation la plus classique des figures de manga avant l'arrivée des nouveaux héros modernes, et j'ai connu mon heure de gloire en France grâce au Club Dorothée. J'ai une attaque signature que beaucoup d'enfants ont essayé, qui s'appelle Kamehameha. Je suis...
Vas-y, moi je connais pas les mangas.
Dragon Ball.
Z. Effectivement, le Sangoku, le personnage de Dragon Ball Z. Donc là, vous voyez déjà un petit peu le niveau qu'on va avoir. Créé en 2013 par Big Hit Entertainment, mon nom est la contraction de deux idéogrammes signifiant pare-balle et Boy Scout. Ma première chanson est No More Dream et devient un succès colossal, me propulsant au statut de meilleur nouvel artiste. En 2014, je commence à devenir international et me propage à travers les réseaux. Mes fans sont une véritable armée. Je suis composé de 7 membres qu'on surnomme les Bangtan Boys. Ma nationalité est coréenne et je ne suis pas un diplôme du secondaire. Je suis...
BTS, non ?
BTS !
Oh mon dieu, j'ai trouvé la réponse !
Alors ça, n'hésitez pas, si jamais il y en a qui ont la réponse. Alors je vois effectivement, il y en a même qui dansent en studio. Comme quoi, ça marche bien, BTS. On va partir sur un autre personnage. Je suis né le 15 janvier 1941 à Tokyo et dois souvent me déplacer dans un Japon dévasté par la guerre. Vous connaissez, vous en faites pas. Mon enfance me servira beaucoup pour mes œuvres dans lesquelles je mets une partie de mon passé et de mes proches. On me connaît pour ma tempérance et pour une histoire de sabre envoyée à Harvey Weinstein. On me considère comme le Walt Disney japonais et j'ai réalisé de nombreux chefs-d'œuvre à la tête de mon studio Ghibli, comme Le Vent se lève, Porco Rosso,
bah oui, Miyazaki.
Oh, le château ambulant.
On le savait tous, hein, de toute façon. Hein.
Et effectivement, c'est bien Hayao Miyazaki.
Mais attends, il a envoyé
un sabre à Harvey Weinstein qui voulait en fait couper Princesse Mononoke.
Oh
et Hayao Miyazaki a envoyé un sabre pour lui dire « no cut
ah ». Ouais.
Ne pas couper. Pas... Le message okay, était passé.
D'accord. Ok. On aurait pu lui couper les... Pardon.
Mais... je pense qu'il y avait peut-être aussi cette idée-là je pense que c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu en fait de cut dans la version américaine de Princesse Mononoke.
On espère que c'est pour ça.
J'espère aussi. Alors attention là par contre, si déjà vous avez du mal avec les précédentes, là on arrive sur un niveau hardcore. Alors après peut-être que si vous connaissez un petit peu le cinéma ou l'histoire, ça peut peut-être passer. Je suis un Chinois. Mais en 1893 dans la ville de Foshan. Je suis connu et reconnu par mes pères comme étant un grand maître des arts martiaux. Je n'ai pas fondé d'art martial.
Jackie Chan.
Mais j'ai pu faire... Alors, 1893.
Ouais, oui, ok, d'accord, je n'ai pas du tout...
Mais j'ai pu faire connaître le mien en utilisant la capture vidéo. Parmi ceux que j'ai formés, il y en a un qui a contribué à rendre mon style martial célèbre et populaire grâce à ses films. Je fais partie de la culture populaire grâce à plusieurs films qui retracent mon histoire, de l'apprentissage du Wing Chun à la transmission à mon élève le plus célèbre qui est Bruce Lee. Je suis...
Jet Li.
Yip Man. Alors,
okay, okay.
Jet Li n'est pas né en 1893, il est né bien après. Alors effectivement, si vous ne connaissez pas du tout dans la culture populaire, Yip Man est celui qui a formé Bruce Lee et il y a une série de films... qui est sorti, qui a effectivement parlé. Alors, il faut vraiment être un peu aficionados quand même du style. Mais c'est un super film pour voir un petit peu les arts martiaux et voir comment se déroulait tout ça. Mmh. Et avec une trace historique qui s'est réellement passée. On finit avec la dernière petite question. Alors là, attention, ça va être à la fois facile, mais en même temps, écoutez bien. Je suis né en 1996. De l'idée de Satoshi Tajiri qui, enfant, était un grand collectionneur d'insectes. Après plusieurs années, j'ai gagné en notoriété et en proposant à mon public de voyager, prendre des photos, de devenir des rangers, de parcourir des donjons tout en gardant cette idée de collectionneur. D'après les rumeurs, mon créateur m'aurait imaginé après avoir vu une souris s'électrocuter sur un câble électrique. Décliné en couleurs, pierres précieuses et astres, je suis aujourd'hui une des licences du jeu vidéo les plus vendues. Mon premier nom était Capsule Monster, puis Pocket Monster. Je suis...
Pokémon !
Pokémon ! Alors effectivement, la légende dit que pour s'inspirer pour le fameux personnage de Pikachu, en fait, le créateur aurait vu une souris manger un câble électrique, s'électrocuter et l'idée serait venue. Putain, ce personnage, il y a toute une histoire autour
c'est
de ça.
C'est normal au Japon.
C'est tout à fait normal au Japon. Donc voilà, donc en fait, faut dire que Nintendo a peut-être eu un gros coup de chance d'avoir juste un tout petit rongeur qui a mangé un câble. Et une panne d'électricité aussi. Donc si vous avez toutes les bonnes réponses, je vous invite en tant qu'expert le 19 février à la Microfolie. On a prévu une séance découverte de la culture pop asiatique sur toute une après-midi. Il y aura de la danse, on parlera manga, animé, musique, K-pop, J-pop et toutes les lettres de l'alphabet. Mais je m'égare. Revenons sur notre sentier et ne dérivons pas. Réouvrons nos chakras et partons à l'écoute de ces contes d'Asie qui se déroulera le 23 février à 14h30. Finalement, ce voyage me mènera vers des terres aux mille et une légendes. Vous souhaitez en savoir plus ? Alors venez à la conférence Destination 2. l'Asie qui se déroulera le jeudi 24 février à 14h30. Sur ce, moi je vous laisse, bah du coup, j'ai un voyage à préparer.
Merci beaucoup, Lafken. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. Pour toutes les infos qu'on a dit, on les mettra en description des émissions sur le site du WIP et de l'audioblog Arte. Merci à tous d'être venus et puis à la prochaine.
À la prochaine.
Salut. À la prochaine.